Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 11 juillet avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et on continuera à célébrer Nighthawk Week avec l'interprète Mitch Tambo. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 11 juillet, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 77 nouveaux cas de coronavirus et un décès. La nouvelle campagne de vaccination Covid-19 est lancée ce dimanche en Australie. Ash Barty, championne du gazon londonien après avoir battu Carolina Pliskova lors de la finale de Wimbledon. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré un total de 77 cas locaux de Covid-19 aujourd'hui et un décès. La chef de New South Wales, Gladys Berejiklian, a déclaré que 33 de ces cas étaient dans la communauté alors qu'ils étaient contagieux et plus de 50 des 77 nouveaux cas sont des membres de la famille proche de ceux qui ont été infectés.
Regrettably, that trend will continue, and given the number of people exposed in the community overnight, I'm anticipating the numbers in New South Wales will be greater than 100 tomorrow. Now, that's what I'm anticipating, and I'll be shocked if it's less than 100 this time tomorrow of additional new cases. So we can't stress enough the importance of not only following the rules, but also realizing the risk.
Dr. Kerry Chant, responsable de la santé en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que le focus n'était pas uniquement mis sur le sud-ouest de Sydney.
We can't not also keep a very strong gaze on other parts of Greater Metropolitan Sydney. So it is important across the state to continue to come out for testing, and it was pleasing to see that we had 48,754 tests reported to 8 p.m. last night.
Le trésorier de Nouvelle-Galles du Sud a reconnu que le gouvernement de l'État devra fournir une aide financière beaucoup plus importante aux entreprises et aux particuliers à mesure que la probabilité d'un verrouillage à long terme du Greater Sydney est prévue. Le lockdown était prévu de prendre fin le 16 juillet prochain. Dominique Perrottet a déclaré sur Sky News que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pourrait également utiliser des plateformes fédérales de soutien du revenu pour administrer l'aide financière financée par le gouvernement de l'État si nécessaire.
Ultimately, you know, we're kind of on the clock in my view. We've announced our first package 10 days ago. We're going to be announcing another package in the coming days because whether it's federal support or state support, what's most important to me is that we look after our businesses and look after our workers. And that's where my focus is going to be in the preparation of these packages. And we'll look at innovative ways of doing things.
Et puis, New South Wales Health demande que des masques doivent être portés dans toutes les zones intérieures communes des immeubles d'appartements de Greater Sydney à partir de mardi prochain, 13 juillet. Certaines de ces zones où un masque doivent être porté sont les centres commerciaux, les succursales bancaires, les bureaux de poste, les agences de Paris, les TAB, les supermarchés. Et cela comprend également la région des Blue Mountains, Central Coast, Wollongong et Shell Harbour. Les masques ne sont pas nécessaires à l'intérieur de votre appartement. Le gouvernement fédéral a lancé une nouvelle campagne publicitaire exhortant les Australiens à, je cite, « s'armer de la vaccination contre le Covid-19 ». Il s'agit d'une importante campagne de vaccination contre le Covid-19 qui aidera à tracer une voie pour sortir de la pandémie mondiale. Le ministre du Tourisme, Dan Tehan, a déclaré qu'il répondrait à ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.
One of the things that we'll be very keen to do is to make sure that we're assuring all Australians of the safety of the vaccine and to make sure that they do go out and get vaccinated. And advertising campaign which is targeted to make sure that Australians do that is incredibly important. That's why we have been advertising over the last months, and it's why we're about to step it up again to make sure as we ramp up the vaccine rollout, more and more Australians are getting vaccinated.
Un vol de rapatriement depuis l'Inde arrive à Darwin ce dimanche alors que les autorités sanitaires du territoire du Nord continuent de recruter du personnel pour l'installation de l'agrandissement de quarantaine à Howard Springs. Le vol de New Delhi transporte environ 200 Australiens qui rejoindront plus de 1000 personnes en quarantaine à Howard Springs. L'installation devrait bientôt accepter 2000 arrivées par quinzaine dans le cadre d'un accord du Commonwealth avec le gouvernement du territoire du Nord, embauchant des centaines de travailleurs supplémentaires. Les autorités affirment que le processus de recrutement d'environ 400 employés nécessaires à l'agrandissement des installations est à l'ordre de 84%. Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a confirmé que toutes les troupes de défense australiennes avaient désormais été retirées d'Afghanistan. Peter Dutton a déclaré qu'il y avait eu 1500 soldats dans le pays qui ont été récemment réduits à 80 et qu'ils ont maintenant tous été retirés sur les conseils du chef de la Défense plus tôt que la date limite initiale de septembre prochain. Peter Dutton souhaite qu'il y ait une journée nationale de commémoration pour ces 39 000 soldats qui ont servi en Afghanistan au cours des deux dernières décennies. 41 soldats sont morts en Afghanistan. Une campagne nationale d'une semaine lancée par Diabetes Australia mettra en évidence la stigmatisation et la honte associées à la maladie. Selon la campagne, le diabète est le problème de santé le plus stigmatisé en Australie. Jusqu'à 80% des personnes atteintes de diabète déclarent se sentir blâmées ou honteuses de vivre avec la maladie, et près de 50% des personnes atteintes de diabète ont connu un problème de santé mentale lié au diabète au cours de la dernière année. La Semaine nationale du diabète se déroule du 11 au 17 juillet prochain. En France, le variant Delta est désormais majoritaire dans le pays. Selon le ministre de la Santé, les spécialistes de la santé, les cas quotidiens augmentent dramatiquement. Le président Emmanuel Macron va trancher sur les nouvelles mesures sanitaires demain, lundi, à partir de 20h. Précision de Valérie Gasse pour Radio France Internationale.
Retour à la case Covid pour Emmanuel Macron. Depuis la mi-mai, le calendrier du déconfinement suivait son cours. La progression du variant Delta risque de mettre un terme à cette séquence de retour à la liberté. Ces derniers jours, les membres du gouvernement ont mis en garde contre le danger de voir l'été gâché par le virus. Un ministre confie « on infuse l'idée que la donne a changé ». L'allocution présidentielle qui devait être consacrée à la relance va donc prendre une toute autre tonalité. Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois face à l'obstacle sanitaire et à des décisions difficiles. En tête des questions, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? Des consultations ont été menées par Olivier Véran et Jean Castex pour essayer de dégager un consensus. Que va choisir le président? Idem sur les autres pistes envisagées comme l'arrêt de la gratuité pour les tests de confort ou l'extension du pass sanitaire. Objectif, relancer la vaccination. Un projet de loi est en préparation. Un ministre assure que la mise en œuvre pourrait être rapide d'ici début août. Reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron voudra y mettre.
Les ministres des Finances des 20 plus grandes économies du monde ont averti qu'une recrudescence de nouveaux variants du coronavirus et un accès limité aux vaccins dans les pays en développement menacent la reprise mondiale. Le G20 s'est réuni samedi dans la ville de Venise, en Italie, la première réunion en face-à-face des ministres depuis le début de la pandémie. Les décisions incluent l'approbation de nouvelles règles visant à empêcher les multinationales de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux à faible taux d'imposition. Les dirigeants du G20 ont également reconnu pour la première fois la tarification du carbone comme un outil potentiel pour lutter contre le changement climatique. Écoutez l'analyse de Julien Martin, professeur à l'Université de Québec à Montréal et co-auteur d'une note du Conseil d'analyse économique sur la taxation des multinationales.
Au-delà de cette avancée politique, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à décider, notamment le taux pour la taxation minimale, qui est d'au moins 15%, mais on ne sait pas exactement de combien il sera. Et également la base taxable dans le cadre du premier volet, qui est entre 20 et 30%, mais là encore, il y a des paramètres qui restent à décider. Toutes les entreprises qui ont des profits qui dépassent 20 milliards d'euros et qui ont une marge bénéficiaire supérieure à 10% vont être sujets à ce pilier de la réforme. Et donc, sur les surprofits des entreprises qui dépassent 10% de marge bénéficiaire, il y a une proportion qui est entre 20 et 30% de ces profits qui vont pouvoir être taxés par les pays du monde entier en fonction de la présence des multinationales dans chacun des pays. Et donc, on voit bien que si jamais les pays se répartissent 20% des profits des plus grandes entreprises ou alors 30% des profits des plus grandes entreprises, on va avoir des revenus qui vont être différents. Plus l'assiette est élevée, plus les revenus vont être élevés.
Aux États-Unis maintenant, avec la convention CPAC à Dallas au Texas, la réunion réunit les conservateurs américains. Reportage de Thomas Arms pour RFI.
How you doing, CPAC?
Dans la foule, on aperçoit le chef des miliciens Oath Keepers qui ont été très présents pendant l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier. Sur scène, Laurette Boebert, l'élue pro-arme du Colorado, est très applaudie quand elle réclame que l'État fédéral les laisse tranquilles. Le Texas s'enorgueillit d'accueillir ses ultra-conservateurs, comme l'explique le numéro 2 de cet État, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick.
Dans le Texas, nous sommes le dernier bastion. Il y a de nombreux conservateurs dans ce pays. Mais si nous tombons, c'est toute l'Amérique qui s'écroule. Et je peux vous dire qu'on ne va jamais laisser cela arriver.
Il est suivi par Donald Trump Jr. dans la même veine.
C'est super de voir que le Texas a toujours mené la charge.
Avant de chauffer la salle pour celui que tout le monde attend ici.
Donald Trump avait raison à propos de quoi ?
Tout ! Ce dimanche, c'est Donald Trump le père qui montera sur scène.
En Espagne, maintenant avec un changement de gouvernement en plein été en ce mois de juillet, c'est un profond remaniement ministériel du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Précision de François Musso, RFI.
Un changement en profondeur de son équipe gouvernementale. C'est le coup politique inattendu du socialiste Pedro Sanchez au pouvoir depuis juin 2018. Des poids lourds tombent comme les ministres du Transport, de la Science et même sa numéro 2 Carmen Calvo, que beaucoup connaissent comme son bouclier sur tous les dossiers brûlants. Globalement, la nouvelle équipe ministérielle est plus jeune de 5 ans, plus féminine encore. Les nouveaux noms sont des personnes peu connues, voire inconnues du grand public, à l'instar du nouveau ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur à Paris, José Manuel Álvarez, ou à l'image de deux femmes détenant les portefeuilles de la science et des transports. Ces deux dernières proviennent de la politique municipale et c'est aussi le souhait de Pedro Sanchez, inclure des personnalités proches des gens. À ses yeux, c'est la meilleure façon d'affronter la crise catalane, la gestion des fonds européens et la nécessaire récupération économique. Pour le principal parti d'opposition, le Parti Populaire, le problème de l'Espagne n'est autre que Pedro Sanchez, à qui il demande de convoquer de nouvelles élections. Or, le même Pedro Sanchez est persuadé qu'avec ce remaniement, il est désormais armé pour tenir jusqu'à la fin de son mandat dans 2 ans et demi.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 13. Sydney, 13 également. Brisbane, 21. Cairns, 26. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 27 degrés. Un rappel des grands titres de ce 11 juillet. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 77 nouveaux cas de coronavirus ce dimanche et un décès. Une nouvelle campagne de vaccination Covid-19 est lancée ce dimanche en Australie. H-Party championne du gazon londonien lors de la finale de Wimbledon.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ce programme radio est diffusé depuis les studios SBS sur les terres non cédées de peuples Bunurong, Bunurong et Wurundjeri. SBS French reconnaît et respecte les gardiens traditionnels de toutes les terres et les anciens passés, présents et émergents. Nous reconnaissons que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres entretiennent un lien spirituel et culturel unique, ininterrompu et fort avec la terre et les eaux, et pratiquent une langue, des traditions et une culture qui enrichissent notre vie et notre identité en tant que nation.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Sydney est en état d'alerte élevé pour le COVID-19. Si vous habitez dans le Greater Sydney, y compris dans les zones de gouvernement local des Blue Mountains, de la Central Coast, de Wollongong et de Shell Harbour, vous devez rester à la maison, à moins qu'il ne soit absolument essentiel de sortir. Vous ne devez pas recevoir de visiteurs chez vous. Faites-vous tester immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Pour les dernières informations, visitez nsw.gov.au. Sydney est en état d'alerte élevé pour le COVID-19. Si vous habitez dans le Greater Sydney, y compris dans les zones de gouvernement local des Blue Mountains, de la Central Coast, de Wollongong et de Shell Harbour, vous devez rester à la maison, à moins qu'il ne soit absolument essentiel de sortir. Vous ne devez pas recevoir de visiteurs chez vous. Faites-vous tester immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Pour les dernières informations, visitez nsw.gov.au. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tournoi de Wimbledon. Ash Barty, l'Australienne, championne de 2021 en trois manches contre Karolina Plíšková, la Tchèque. Ash Barty, la première Australienne à remporter le grand chelem londonien depuis Yvonne Goolagong il y a 41 ans. On écoute Ash Barty.
It took me a long time to verbalize the fact that I wanted to dare to dream it and say I wanted to win this incredible tournament and being able to live out my dream right now with everyone here. This has made it better than I ever could have imagined. I didn't sleep a lot last night. I was thinking of all the what ifs, but I think when I was coming out on this court, I felt at home in a way, and I think being able to share that with everyone here, to share that with my team is incredible.
Un autre Australien, Dylan Alcott, a remporté son troisième grand chelem de cette année, cette fois à la finale à Wimbledon pour le tennis en fauteuil contre le Néerlandais Sham Schroeder, 6-2, 6-2. Ce dimanche, la finale des messieurs, Matteo Berrettini, l'italien, jouera contre Novak Djokovic, le serbe, qui va essayer de gagner son 20e grand chelem de sa carrière. On passe au Tour de France hier, 14e étape, avec la victoire du Néerlandais Bauk Mollema. Tadej Pogacar garde le maillot jaune devant le Français Guillaume Martin. Vendredi, Mark Cavendish a égalé le record de Eddy Merckx, 34 victoires. Le Français Julian Alaphilippe, son équipier, lui rend hommage.
C'est un plaisir, tout simplement, de se dévouer pour son équipier, encore plus quand c'est un ami et encore plus quand c'est pour Marc. Ça rend la victoire encore plus belle. C'est pas seulement un grand coureur, c'est aussi un super mec. Et quand on voit la carrière qu'il a fait, il a aussi toujours su rebondir après beaucoup de moments de doute ou beaucoup d'échecs. Et, ouais. Quand on voit tout simplement sa carrière, quoi, en général, pas seulement le nombre de victoires qu'il a sur le tour, mais tout ce qu'il a accompli. Je suis juste content de me dévouer pour lui, comme toute l'équipe le fait. Et voilà, c'est chouette.
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, avait également ses mots à dire sur Cavendish.
Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans peut-être, nous étions au Tour d'Oman, nous avions parlé d'André Darrigade et j'avais demandé à Mark Cavendish s'il le connaissait. Et il m'avait répondu, Darrigade 22, Hinault 28, Merckx 34. Je ne sais pas combien il avait de victoires d'étape à l'époque dans le Tour de France, peut-être 18, 19, 20, en tout cas moins que ceux que je viens de citer. Sans doute avait-il ça déjà en tête. Peut-être une envie d'atteindre l'inaccessible qu'il vient de rejoindre. 34 victoires d'étape à 13 ans d'intervalle. C'est un sprinter phénoménal qui a tout connu, des très hauts et des très bas, qui avait sombré dans une dépression. Ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, c'est Eddy Merckx. Mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinter de l'histoire du Tour, le plus grand sprinter de l'histoire du cyclisme.
On passe au foot, l'Euro, la finale ce dimanche, Italie contre l'Angleterre. Et tout de suite, on écoute Matteo Cioffi pour RFI et Thomas de Saint-Léger sur les préparations en Italie.
Si je vous dis qu'ici, on est en train de compter les minutes qui nous sépare au début de la finale, c'est un rendez-vous qui va mobiliser un pays entier qui tout à petit s'est lié profondément à cette nationale. Et bon, si les triomphes seront à l'appel, alors les places et les rues de la botte du nord au sud seront pliantes des gens, et là à ce moment la fête pourra commencer. Faut souligner que presque dans toutes les grandes villes italiennes, les écrans géants ont été interdits pour réduire les rassemblements. Le conseil est celui de rester à la maison devant son poste de télévision. Face à l'Espagne, 20 millions d'Italiens ont suivi la rencontre à la télé. Demain soir, ils seront encore plus. Et peut-être qu'ils arriveront même, nous les Italiens, on arrivera à battre ce fameux record de 27 millions et demi de personnes, de spectateurs qui avaient suivi en 1990, la demi-finale Italie-Argentine, et qui est le record absolu pour ce qui concerne l'audience à la télé.
Un peuple derrière son équipe, une équipe que tout le monde, j'imagine, dans la botte pense invincible. Hein. C'est en général un petit peu comme ça chez vous. Je charrie un petit peu.
Oui, bien entendu, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas craindre l'Angleterre, mais seulement la respecter. C'est un peu ça le diktat qu'on a suivi ici en Italie, et comme a rappelé aussi aujourd'hui la presse transalpine, qui s'est serrée autour de la squadra, à l'image du pays entier. Viva l'Italia, a titré ce matin la Gazzetta dello Sport.
Et quant à Antoine Grenier, lui, il est en Angleterre, un aperçu de la finale avec Thomas de Saint-Léger, à nouveau, pour RFI.
Gareth Southgate qui réalise à la tête des Three Lions ce qu'il avait été tout près d'accomplir en tant que joueur, mais le 26 juin 96 dans l'ancien Wembley, son tir au but, le sixième de la demi-finale contre l'Allemagne, avait été arrêté par Andreas Koepke. Un déchirement pour le tout jeune défenseur, à l'époque 25 ans, critiqué aujourd'hui pour ses choix parfois frileux lors de cet Euro, notamment le fait de laisser Marcus Rashford, Phil Foden ou Jack Grealish sur le banc. Southgate est quand même en train de réussir son pari, et il le fait avec le soutien de son groupe, notamment de John Stones, l'inamovible défenseur central des Three Lions, que Southgate a su remotiver après sa finale de Ligue des Champions perdue avec Manchester City.
Gareth a été joueur, donc il sait que ce type de match vous éprouve beaucoup. Il m'a permis de me reposer l'esprit, passer du temps avec ma famille, me vider la tête. C'est une des qualités de Gareth, il voit les choses différemment des autres. Grâce à lui, on l'a montré, on est calme et collectif. Dans d'autres circonstances, on aurait pu paniquer et se précipiter. Là, on s'est montré qu'on est capable d'être patient. Même si ce sont des moments de tension, difficiles pour les fans, on se prépare à l'entraînement pour les prolongations et les tirs au but.
Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus jusqu'en 2022, du moins pour la Coupe du Monde. Et puis l'Espagnol Sergio Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, le Marocain de l'Inter Milan, est depuis mardi aussi un joueur du Paris Saint-Germain pour les 5 prochaines années. Les JO de Tokyo qui débuteront le 23 juillet prochain et il n'y aura pas de spectateurs, comme nous l'explique Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, inquiet de la reprise épidémique due au variant Delta du Covid, les autorités se sont résignées à organiser la compétition sans public. Les sportifs se sont fait une raison, comme le cycliste Benoît Cosnefroy qui fera partie de l'équipe de France de course sur route.
Forcément, c'est une partie du partage qui est en moins et le public fait partie des Jeux Olympiques. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est en temps de Covid et il faut s'adapter. Donc la compétition a lieu, donc voilà, le côté sportif reste présent et c'est bien le principal pour moi, c'est pour ça que j'y vais. Mais donc voilà, après c'est sûr que c'est pas des conditions idéales ni pour le Japon qui nous accueille et qui prépare ça depuis plusieurs années. Donc voilà, la fête va être différente, mais le côté sportif va rester présent.
Qu'en pensent les athlètes africains? On écoute la réaction de Hugues Fabrice Zango.
Je suis vraiment très mental et lorsque je suis souvent dans mon truc, je ne calcule pratiquement plus ce qui se passe autour de moi. Même à Doha, je n'ai même pas demandé la clap une seule fois et tout cela. Donc c'était vraiment plus moi et moi et je suis suffisamment motivé. Voilà, une pression supplémentaire ou une motivation supplémentaire ne m'apportera presque. Le gain n'est pas forcément énorme pour moi. Et donc, je ferai le show et ceux qui seront derrière leurs écrans vont bien voir.
Un mot de rugby, la tournée du 15 de France en Australie. Le prochain match, c'est le 13 juillet au AAMI Park de Melbourne et le 17 juillet au Suncorp Stadium à Brisbane. Un mot du Grand Prix de Formule 1 d'Australie qui a été annulé. Ainsi que le Grand Prix de MotoGP à Phillip Island en octobre. Le ministre des Sports du Victoria, Martin Pakula, a fait l'annonce suivante.
I fully expect that these events will occur in 2022. We're aiming for an early season F1 event next year and a MotoGP on a date to still be determined.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Sydney est en état d'alerte élevé pour le COVID-19. Si vous habitez dans le Greater Sydney, y compris dans les zones de gouvernement local des Blue Mountains, de la Central Coast, de Wollongong et de Shell Harbour, vous devez rester à la maison, à moins qu'il ne soit absolument essentiel de sortir. Vous ne devez pas recevoir de visiteurs chez vous. Faites-vous tester immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Pour les dernières informations, visitez nsw.gov.au. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et un personnage qui lui est associé. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matassou. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur le destin du Français d'Axel Kahn, décédé il y a quelques jours.
Oui, Axel Kahn, médecin, généticien, écrivain, essayiste, il s'est éteint ce mardi 6 juillet, il était âgé de 76 ans. Axel Kahn qui souffrait d'un cancer, il se savait condamné, on va revenir sur son parcours, la carrière d'Axel Kahn. Il occupait ces dernières années la présidence de la Ligue contre le cancer. Il y a deux mois, au mois de mai, il avait annoncé qu'il se mettait en retrait à cause de son cancer à lui qui s'était aggravé. Il y a quelques mois, un peu plus loin, en mars dernier, là, dans son dernier ouvrage intitulé « Et le bien dans tout ça », il avait évoqué cette maladie avec ces mots « La maladie que je combats avec acharnement en tant que président de la Ligue ne s'était pas avouée vaincue, elle m'attendait au tournant, lançant une attaque massive. » Et donc ces dernières semaines, se sachant condamné, Axel Kahn, qui était un personnage public, de par ses prises de position, ses responsabilités, ses convictions, il avait accordé plusieurs entretiens à différents médias, sachant la fin proche. Il y évoquait la mort, sa façon de l'appréhender, sa sérénité face à la mort. Il parlait d'une expérience saisissante, ce sentiment de profiter de chaque instant, disait-il. Ce message, par exemple, qu'il a publié sur Twitter au mois de mai, « La joie de tout instant de beauté est décuplée par l'hypothèse que l'on pourrait n'en plus connaître de pareil, sensation inouïe, bonheur immense. »
Qui était Axel Kahn? Parlez-nous de lui, de sa carrière.
Eh bien, il est issu d'une famille très connue. Son père était le philosophe Jean Kahn. Il s'est suicidé, son père, à 54 ans. Un geste qui a terriblement marqué Axel Kahn, son père lui ayant laissé un mot, une lettre posthume, où il était écrit « sois raisonnable et humain ». Axel Kahn a longtemps gardé secret cette lettre, mais sur la fin de sa vie, il expliquait combien ces mots, cette lettre laissée par son père, « sois raisonnable et humain », l'avait accompagné, l'avait guidé toute sa vie dans les différents choix qu'il avait eu à effectuer, une prédiction, soit raisonnable et humain, des interrogations qu'il se posait en permanence. Axel Kahn, qui est né en Indre-et-Loire en 1944, ses deux frères, plus âgés que lui, ont fait de grandes carrières. Olivier Kahn, décédé en 1999, qui a été un chimiste de renom, la chimie, et Jean-François Kahn, son autre frère, aujourd'hui âgé de 83 ans, qui est un grand journaliste. Jean-François Kahn a créé l'événement du jeudi dans les années 80 et en 1997 l'hebdomadaire Marianne. Axel Kahn, lui, a fait médecine par élimination, dit-il. Il ne voulait pas entrer en concurrence avec ses deux grands frères. À la fin des années 70, il entre à l'INSERM, l'Institut de recherche, à l'hôpital Cochin à Paris, et très vite, il se passionne pour la génétique, pour les thérapies géniques. Axel Kahn deviendra ainsi président de l'Institut Cochin, puis de l'Université Paris-Descartes. Il a aussi été membre du Comité national consultatif d'éthique. Au cœur de toutes ces questions autour de la génétique, le clonage, les tests génétiques, etc., etc., Axel Kahn avait cette faculté à vulgariser les choses en apparence donc compliquées, les rendre accessibles au grand public par ses explications simples, pédagogiques. Axel Kahn, qui a été cofondateur de la revue scientifique Médecine Science, il avait des phrases choc qui faisaient mouche, estimant, je cite, que l'individu ne se résume pas à ses gènes. En cela, il n'a pas hésité à prendre position à différentes reprises, à s'opposer publiquement au pouvoir politique du moment, comme lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, quand le gouvernement, avec quelques raccourcis, envisageait de mettre en place tout un arsenal législatif pour identifier dès le plus jeune âge les futurs délinquants, un dépistage précoce des enfants présentant des troubles du comportement. Il s'y était opposé farouchement.
Axel Kahn était aussi engagé politiquement. En tout cas, il a toujours défendu les idées progressistes de la gauche.
Bien, dans sa jeunesse, il a milité au Parti communiste jusqu'en 1977. Le cœur à gauche. Ensuite, durant les deux septennats de François Mitterrand, de 1981 à 95, et plus près de nous en 2012, il s'était présenté aux élections législatives sous la bannière du Parti Socialiste à Paris, mais Axel Kahn avait été battu par François Fillon, le candidat de la droite dans cette circonscription. Il affirmait avoir refusé à deux reprises le poste de ministre de la Recherche qu'on lui avait donc proposé. Père de quatre enfants, Axel Kahn ne voulait pas se retrouver prisonnier une fois ministre. Il parlait de circonstances contraintes. Il préférait garder sa liberté, écrire quelques 600 articles scientifiques sur le cancer, thérapie génique, l'expression des gènes. Axel Kahn a écrit aussi de très très nombreux ouvrages. On citera Et l'homme dans tout ça, publié en 2000, ou encore L'homme, ce roseau pensant, ou Les racines de la nature humaine. Il s'est éteint, nous le disions, à 76 ans, mort du cancer, lui qui présidait la Ligue contre le cancer. L'annonce de son décès a suscité une pluie d'hommages. Jean Castex, le Premier ministre, sur Twitter, a écrit « Rendre hommage ». À l'homme, c'est d'abord épouser ses combats, saluer cette vie qui avait valeur d'exemple et faire nôtre ses engagements. Sur Twitter également, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a salué la mémoire d'Axel Kahn, grand scientifique, essayiste guidé par l'éthique et la morale, humaniste engagé pour les autres, avec la Ligue contre le cancer jusqu'au bout, amoureux de la vie, il était tout cela, Axel Kahn. Fin de citation.
Voilà pour notre personnalité de ce dimanche. Vous écoutez SBS, le programme en français.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Continue le programme et on va continuer à célébrer NAIDOC Week et je passe l'antenne à mon collègue Bertrand qui va vous présenter l'interprète Mitch Tambo.
Vous êtes avec SBS French.
My guest is Camille Roy artist Mitch Tambo and we're catching up in the context of NAIDOC Week 2021. Mitch Tambo, first of all, happy NAIDOC Week.
Yama yama, brother. Happy NAIDOC Week. It's crazy times. A lot of us are in lockdown, but there's ways to celebrate, and there's ways to definitely celebrate the achievements of our community, of my community, and acknowledge our beautiful ancient history.
And the theme of this year is a very powerful theme. It's about healing country. What's your take on this powerful theme?
Yeah, look, it's a very poignant theme this year. It's a theme that really it resonates with me big time, really. You know, that whole thought, idea, belief around, you know, healing country. And for us as First Nations mob, or for me anyway as a Gamilaroi man, you know, we are circle people and country is us and we are country and we are all connected. So with that thought in mind, you know, if country's sick and not being looked after properly, the flow-on effects to us and our own mental health and all around well-being can be astronomical, you know. So for us to be able to heal country and make steps forward to look after country and revive certain aspects of country, I think the flow-on effects can be great in terms of our mental health and all around well-being. So, yeah, I think this year could open up some real honest conversations and hopefully, you know, drive us somewhere, you know, into a better direction, better future.
Yeah, this year we're talking about healing in a context of a pandemic, but already a little bit more than a year ago, we caught up when you were headlining acts about healing country. It was just after the devastating bushfires that actually destroyed a big part of the country, and you're already heavily involved. I remember you headlining acts working towards healing already.
Yeah, with Firefight, and I mean, everything that's going on, I suppose, you know, we could look at it as there's so much heaviness going on around, you know, the world and the nation, and so many things are happening. But out of that, you know, there's all these beautiful conversations that are happening too that hopefully will lead us into a brighter future and create a beautiful platform for the next generations to walk upon. So, you know, out of that, you just hope that we can just grow and go to another level as a collective and just do some really amazing things together and some really serious healing together, and it could just be really beautiful.
And healing country is not just about the physical healing of country, because our country is just more than just the physical space we live in.
Yes, 100%. I'm glad you said that, brother, because it is. You know, country is, it transcends the physical and goes into many different realms, and there's so many different spiritual aspects to country. It's all the unforeseen as well, and I think for us, country is here. It's where we walk, it's where we play, it's all of these things. But also, you know, we can look up into the beautiful Warrnambool, the Milky Way, and you know, we have all these connections to story. Everything is connected, and that idea of connection, it is, you know, we're connected, you and I are connected, you know, each and every one of us is connected, and the flow-on effects of that are great. And maybe sometimes we don't like to dive deep and talk about that and how that works, but it definitely works. We are certainly connected to everything. Country is everything. You know, country transcends into the unforeseen, into the spiritual. You know, the idea that we are connected to everything is true. You know, we're connected to the air that we breathe in. Just the air that we breathe in itself impacts our own health absolutely drastically into the waterways, you know, everything, into the food that we eat. It's all connected, and it all, you know, in its entirety is driven from country, isn't it? So to have these conversations, it's massive. We are all connected, and I think sometimes we forget that. And we don't take, you know, a good minute to look at that and reflect on that. And when we hone it into our own little circles that surround us, everything has a direct and an immediate impact. It's really interesting this year. It's got some real depth about it, and can really open up and drive some really serious conversations. Yeah.
And this year, while everyone has been hunkered down and locked down or just fearful for their health and well-being, you've been busy. You've released at least three singles, if my memory is good. Love, Absolutely Everybody, Dreamtime Princess, and busy promoting togetherness and healing.
Well, you know, you have this calendar that's full, and then it's taken away from you, and then it comes to NAIDOC week, and it's just full few weeks, it's just looking amazing, and then it's taken away from you, and you're constantly like pushed to, I suppose, just keep believing in what you do and not be discouraged, but find ways to keep empowered and keep the creative juices flowing and keep feeling like you're moving forward. And I've just been really blessed to just be able to, you know, continue to create, continue to write songs, continue to reflect on what's happening around me, and I guess just continue just to write and continue to just put all my thoughts and feelings, you know, down on paper and go on and let that expression out, which I suppose in this time that we're in has been, you know, very therapeutic in its own self, because it's just allowed me to just continue to, you know, get things off my chest and I suppose just have that release. So it's been a real blessing, and I look forward to releasing some new tracks real soon, which I'm excited about, and hopefully I can let them out them out soon and get on the road and start, you know, just singing and expressing that to a live audience, which would just be absolutely amazing, brother, because it's hectic times that we're in, isn't it?
And how are you celebrating Night of Quick this year in lockdown conditions, especially where you are?
Well, yeah, it's a great question. I haven't really done much in terms of out and about, just because it's the current climate we're in, which, you know, it hasn't been great. But I've been blessed to do a lot of stuff online and obviously participate in the virtual aspect. And, you know, I was going to say sort of celebrate at home. But, you know, the reality is, brother, is I celebrate my culture every single day of the year. You know, I live and breathe culture. So for me, it's NAIDOC week every day, especially in my household. And we celebrate our cultures in the house, you know, every day, you know, whether it's Aboriginal, West Papuan, you know, we have that celebration. So at home, we're certainly always just rocking out and celebrating our cultures, which is deadly. But in terms of NAIDOC week, yeah, it's been difficult this year. But look, to be able to, again, I suppose, keep positive and look at the cup half full, you know, it's a blessing to be able to celebrate online. I was able to do Big Mob Brekkie on NITV and have a mad yarn with Matty Mills, brother I grew up with in Temi, which is great. And hopefully go on the project tonight and have a yarn there. So, I mean, you've got to continually look at your blessings, you know, and the opportunities that are presenting in such a hard time. So I'm really blessed.
Yeah. Now, a final word before I let you go, a message to the community, just to wrap up the conversation.
You know, if I had a message for anyone out there that wants to receive it, first and foremost, it's just count your blessings. You know, you mightn't feel like you have any blessings or one blessing, but if you can just look at just one blessing, that it is, you know, today you woke up, you were able to take a beautiful breath of air, look outside your window and catch some sunlight. Hopefully it can just, for a brief few moments, just take away the frustrations, what you're going through right now in terms of COVID and everything that's happening. You know, there's so much happening in the world, and I just hope that anyone out there right now that's really struggling with their mental health, that is having these serious thoughts of self-harm, of giving up, that you would just fight another day because you are so worth it. This world is better with you in it. And I just urge you not to give up and just to continue for another day and press on. And if all you've got today to hold on to is the oxygen in your lungs, then I urge you to hold on to that and count your beautiful blessings, because whatever you're here on this earth, there is hope. And I just urge you not to give up. And if you haven't heard it for a long time, I love you. You are loved. And don't you ever forget it. Hold on tight and let's keep fighting and let's get through this COVID period together, because you are worth it. And when you're ready, there's so much support out there waiting for you to grab hold of. There's even little crisis grants. There's so much that you can access. So please don't give up.
Yeah, Mitch Tambo, thank you so much for taking the time to talk to us today.
Thanks so much for having me, brother. I really appreciate your support. You know, all these conversations with you over the years now, I suppose, you know, it means a lot to me just to have that continuation of your support and being able to always just have a yarn and a yarn about what's happening, a little promo, and just the catch-up's always a blessing. So thanks heaps.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à 13h.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.